Dans cette conclusion, nous allons développer comment l'entraînement à la pleine présence est une voie humaniste naturelle, d'harmonie et de santé, qui a des bienfaits personnels et sociétaux. Nous verrons comment la pleine présence est une pratique éthique et spirituelle qui, dans une approche naturelle fondamentale, a une portée universelle. Nous considérerons successivement deux dimensions de la pratique de la pleine présence, sa dimension thérapeutique et sa dimension humaniste. Les deux sont convergentes et complémentaires. La voie de la pleine présence comme thérapie globale. Comme nous l'avons discuté et pratiqué au fil de la méthode, la pratique de la pleine présence est une thérapie globale du corps-esprit qui guérit de la maladie des illusions et des passions conflictuelles qui engendrent disharmonie, déséquilibre et mal-être. Dans une métaphore classique à la base de l'enseignement du Bouddha, qui est la source de la méthode, nous sommes comme un malade. Le diagnostic identifie une maladie existentielle et cognitive. Et comprenant qu'il y a une possibilité de guérison, l'on se consacre à la pratique thérapeutique, curative, qu'est l'entraînement à la pleine présence, attentive, ouverte et altruiste. La fonction thérapeutique opère par l'épuisement des facteurs d'illusion et de passion. Celle-ci s'accomplit progressivement dans un triple entraînement ou apprentissage à la pleine conscience, la pleine présence et la pleine compréhension. L'épuisement ultime des illusions et passions, la santé fondamentale, est nommé le grand épuisement, la grande extinction ou la grande perfection. Dans ce schéma thérapeutique, nous allons considérer successivement la maladie, le diagnostic, la santé, la guérison et la thérapie. La maladie, le mal-être dans ses différentes formes. Au départ, notre maladie est le mal-être. Il y a dans le monde, en nous, dans notre vie, dans ce que je suis et ce que je vis, de l'insatisfaction, de la disharmonie et des souffrances, ce que l'on nomme du mal-être. Il y a le mal-être grossier, la douleur, la souffrance habituelle que l'on expérimente dans la vie avec les maladies, la vieillesse et la mort, ainsi que toutes les difficultés de l'existence. Que ce soit d'être confronté à ceux qui nous sont hostiles, d'être séparé de ceux qui nous sont chers, de ne pas pouvoir obtenir ce que nous voudrions, ou encore de ne pouvoir garder ce que nous avons. Il y a ensuite un mal-être plus subtil qui est celui du manque, du changement ou de la perte. Nous voudrions de la stabilité dans l'existence et nous essayons de conserver ce qui par nature ne peut l'être. Tout est impermanent, la vie et tous ses composants sont impermanents. Tout est éphémère en continuel changement. Les changements avec les pertes et les catastrophes qui y sont associées constituent ce deuxième type de mal-être. Il existe enfin un mal-être très subtil qui est de nature existentielle. Il est inhérent à l'existence individuelle, à la séparation et au manque né de l'incomplétude. Comme il est très subtil, il est souvent imperceptible. Il est sous-jacent aux deux premiers, habituellement masqué par ceux-ci. Ces difficultés, ces souffrances, mal-être, sont une réalité. Ils existent dans notre vie. Le diagnostic. Les illusions et passions viennent de la saisie cognitive. Vient ensuite le diagnostic de la maladie du mal-être, la recherche de sa source. Le mal-être, comme toute forme de maladie, vient de la disharmonie, du déséquilibre. L'origine de la disharmonie et des déséquilibres, source de mal-être, se situe dans notre esprit, notre expérience. Elle est d'abord de nature cognitive. Et pour être plus précis, dans la saisie cognitive. La saisie cognitive génère l'illusion dualiste qui fait exister l'ego et les passions conflictuelles qu'il produit et qu'il anime. Elle est constitutive de la conscience habituelle. Elle fait naître initialement l'illusion de la dualité sujet-objet et entre ces deux pôles, fait émerger secondairement les relations passionnelles de désir-attachement, d'agression et d'indifférence. Toutes les passions conflictuelles peuvent se résumer à trois, l'attraction, la répulsion et l'indifférence, comme nous l'avons vu précédemment dans la partie sur les émotions conflictuelles ou passionnelles. Dit autrement, l'origine du mal-être est l'illusion et les passions produites par la saisie cognitive. Bouddha, le grand thérapeute, enseigna que je suis, mais que je ne suis pas ce que j'ai l'impression d'être. Je ne suis pas une entité, un ego qui aurait une existence solide et indépendante. Je suis un être de relation, j'existe relationnellement. Derrière l'impression d'être une entité, un soi, solide et indépendant, il n'y a aucune réalité véritable. C'est une impression illusoire. Il a ainsi enseigné que nous ne sommes pas l'ego monolithique, indépendant, que nous avons psychologiquement l'impression d'être habituellement. L'ego est une impression réelle, mais dépourvue de réalité véritable. On peut en parler comme d'un phénomène émergeant dans l'interdépendance de facteurs multiples, comme quelque chose dont la nature n'existe pas en soi, mais qui, pourrait-on dire, inter-est, existe dans l'interdépendance de multiples facteurs. Vivre dans cette compréhension, entrer pleinement dans cette intelligence et cette expérience, est une grande libération. On est, en soi, libre de soi. La santé, la guérison. Vient ensuite la grande découverte, la bonne nouvelle. Au-delà de l'illusion et des passions, transcendant la maladie, il est un état de santé, libre de disharmonie, une réalité fondamentale qui, dans son harmonie et sa santé, est bonheur. Il est une santé fondamentale transcendant la maladie. Cette santé fondamentale est harmonie et bien-être. C'est parce que nous sommes fondamentalement sains qu'il est possible de guérir. S'il n'y avait pas une santé fondamentale, nous ne pourrions pas guérir de la maladie. Le remède. Le triple entraînement. Ayant compris ce qu'est la maladie, son origine et la possibilité de guérison, la question est maintenant, comment guérir? Quelle est la voie qui permet de guérir de la maladie des illusions et des passions? Cette voie est l'entraînement à la pleine présence qui, dans ses différentes pratiques, va diminuer la saisie cognitive et ultimement nous en libérer, diminuant par là même les illusions et passions ainsi que tous les problèmes qui en procèdent. Cet entraînement libérateur est en fait un triple entraînement ou un triple apprentissage. L'apprentissage de la pleine conscience ou de l'éthique. Il s'agit d'être pleinement attentif à ce que l'on fait, d'être pleinement conscient de ce que l'on fait, de ses actions et de leurs conséquences. La pleine conscience est plus particulièrement l'attention permettant l'entraînement éthique. L'apprentissage de la pleine présence ou de l'expérience profonde de l'instant qui se vit dans la désaisie. C'est l'entraînement à la pleine présence en général et à la pleine présence ouverte et relaxée en particulier. La pleine présence est plus particulièrement l'expérience profonde de l'instant présent, libre de saisie. Et l'apprentissage de la pleine compréhension, qui est celle de l'intelligence immédiate émergeant dans l'expérience de la pleine présence. La pleine compréhension est plus particulièrement l'intelligence de la réalité directe et immédiate. Bouddha distingua ces trois dimensions de l'apprentissage qui se disent en sanskrit Shila, la discipline éthique, Samadhi, l'expérience profonde, et prajna, la compréhension de la réalité. Dans le contexte de notre discussion, comprenons que le cœur de l'entraînement à la discipline éthique est la pratique de la pleine conscience en tant qu'attention à ce que l'on fait. Le cœur de l'entraînement à l'expérience profonde est la pratique de la pleine présence, comme état de présence à l'instant. Et le cœur de l'entraînement à l'intelligence de la réalité est la pratique de la pleine compréhension, l'expérience et la compréhension immédiate de ce qui est. Nous allons maintenant développer ces trois aspects. La pleine conscience, cœur de l'éthique. Pour éviter les confusions, remarquons d'abord qu'il y a un problème fréquent dans la traduction en français de mindfulness par pleine conscience. Cette traduction, bien que compréhensible, est contestable, tant du point de vue linguistique que du point de vue de l'expérience signifiée. Cette traduction a une histoire qui l'explique, nous n'entrerons pas dans des détails inutiles présentement. Pour ce qui est du sens, mindfulness est une expérience qui, dans les enseignements du Bouddha, se dit en sanskrit smirti et en tibétain drenpa. Ces deux termes ont un champ sémantique vaste qu'il n'y a pas lieu de détailler ici. Faisons simplement remarquer que l'état de mindfulness, smirti, drenpa, ne consiste pas tant à être pleinement conscient que pleinement présent. Quelle est la différence? Être pleinement conscient suggère une conscience qui est pleine, forte, une conscientisation intense. Une telle conscientisation dans laquelle je suis pleinement conscient de ce que j'expérimente se comprend dans le contexte de la discipline éthique telle que nous venons de le présenter. Ce peut aussi correspondre dans certaines approches à des étapes préliminaires de la pratique. Mais profondément, l'entraînement à Smriti ne consiste pas, comme pourrait le suggérer l'accent mis sur la conscience dans l'expression pleine conscience, à pratiquer l'intensification, le renforcement de la conscientisation dualiste, qui à la fois réifie l'expérience objective et solidifie la conscience duelle sujet-objet. Profondément, Smriti, Drenpa, ou dans la traduction anglaise mindfulness, sont un état de présence, de simple présence, de complète présence, sans distraction, en lequel on fait corps avec l'instant présent. Dans ce sens, la traduction par pleine présence est plus fidèle au sens des termes originaux et surtout correspond mieux à l'expérience signifiée. C'est pourquoi nous utilisons pleine conscience au sein de la tripartition pleine conscience, pleine présence, pleine compréhension. Pleine conscience correspondant à la pratique éthique qui consiste en une attention, une vigilance continue à ce que l'on fait. La pleine conscience est la conscience de ce que nous faisons, l'attention à nos faits et gestes dans une perspective de responsabilité. La pleine conscience gouverne ainsi une discipline de non-violence altruiste résumée dans la règle d'or que nous développerons. La pleine présence, cœur de l'expérience profonde. La pratique de la pleine présence est l'entraînement à l'expérience profonde de l'instant présent. Elle consiste à être 100% ouvert au présent, réceptif et disponible. L'expérience profonde de la pleine présence est celle de la dessaisie et de l'immédiateté. Nous l'avons développée ainsi que l'entraînement qui y conduit. La pleine compréhension, cœur de l'intelligence de la réalité. La pleine compréhension est l'intelligence de ce que je suis et de ce qui est. Cette compréhension de la réalité émerge dans la présence immédiate, transcendant les représentations conceptuelles duelles. La pleine compréhension est une intelligence réflexive qui, sur un mode non conceptuel, se comprend en elle-même. Elle comprend la réalité qu'elle est, elle comprend en soi ce qu'elle est. Cette pleine compréhension ou intelligence réflexive est aussi une connaissance de la connaissance. C'est l'expérience libératrice, la connaissance immédiate, directe et non duelle, qui libère de l'illusion la plus profonde. C'est la clé de la compréhension de la nature de l'esprit-expérience. En bref, la voie de la pleine présence comprend ces trois aspects, éthique, expérientiel et de compréhension, qui constituent trois niveaux ou étapes de l'entraînement, et ultimement trois dimensions complémentaires de l'expérience de pleine présence.